L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes lundi 16 novembre. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde.
Donc Claire, comme d'habitude, tu es dans nos studios de Laval et donc tu fais l'émission dans les studios à Laval et moi ici à Château-Gontier, donc double, une émission, deux studios, deux animatrices. Et aujourd'hui, on va parler du Secours catholique qui fait son bilan annuel de la pauvreté. Sans surprise, le Covid a fait plonger de nombreuses personnes dans la précarité. On détaillera ça dans les chiffres tout à l'heure. En Mayenne, la protection civile s'occupe des centres de dépistage pour la Covid, mais aussi de la régulation à l'hôpital de Laval ou du portage de repas. Ils sont à la recherche de nouveaux bénévoles. On en parle avec Rémi Besson, le président. Comment les commerçants de Château-Gontier s'en sortent pendant ce deuxième confinement? Nous essaierons toute la semaine de répondre à cette question avec ce lundi la fleuriste de Jardin du Faubourg et une chronique de Soisic sur l'émotion en politique inspirée par l'emportement d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Le Conseil départemental rend hommage à Samuel Paty.
En ouverture de la session ce lundi matin, François Béchu, le responsable artistique du Théâtre de l'Échappée, a lu la lettre de Jean Jaurès en hommage à Samuel Paty. Et ce, en présence de la moitié des élus départementaux, les autres étant en visioconférence. Au menu des discussions, les orientations budgétaires de 2021.
Les indicateurs de l'épidémie en légère hausse en Mayenne.
Selon l'Agence régionale de santé, 112 personnes sont hospitalisées, dont 15 en réanimation dans le département, avec un taux d'incidence de 292 cas pour 100 000 habitants, un chiffre encore plus important pour les personnes de plus de 65 ans à 310 cas, et le taux de positivité, lui, est stable à 18,5%.
La région renforce son fonds de soutien à la culture.
Les élus régionaux ont voté pour un élargissement du fonds d'urgence événements destiné aux structures organisatrices d'événements associatifs, culturels et sportifs en Pays de la Loire. Des aides pouvant aller jusqu'à 40 000 euros pour les associations organisatrices d'une manifestation annulée par exemple. Ce fonds d'urgence est mobilisable jusqu'au 30 septembre 2021.
Le maire de Laval lance un appel à l'aide pour les quartiers prioritaires.
Florian Bercot fait partie de la centaine de signataires d'une lettre ouverte à destination d'Emmanuel Macron. Les élus demandent qu'1% du plan de relance soit dédié aux quartiers prioritaires, des zones particulièrement touchées par la crise sanitaire.
Et retour en mer avec le Vendée Globe.
Maxime Sorel, skipper du bateau VNB La Mayenne, aurait heurté cette nuit un OVNI, un objet flottant non identifié. Beaucoup de bruit pendant la collision, mais pas de dégâts apparemment. Actuellement 15e selon le dernier pointage à midi, il se dirige vers l'archipel du Cap-Vert et se prépare pour le passage du poteau noir. Fabrice Amédéo, lui, rattrape petit à petit le retard sur ses concurrents.
Alors je lis bien, Marie, 9 euros par jour et pas personne?
C'est très peu et pourtant c'est le maximum dont disposent les ménages qui font appel au Secours catholique. L'association a publié son grand bilan annuel de la pauvreté au niveau national, mais aussi au niveau local en Mayenne. Trois quarts des ménages sont sous le seuil d'extrême pauvreté, ce qui les contraint à ce que Marc Bonnet, le président du Secours catholique en Mayenne, appelle des arbitrages impossibles.
Arbitrer entre le paiement du loyer ou l'énergie. Dépenses alimentaires, risque de s'endetter ou faire appel à l'aide alimentaire. Il est quand même surprenant de voir que 57% des ménages sans impayés, donc qui n'ont pas de dette, donc qui gèrent bien leur budget, font des demandes alimentaires. L'idée que l'idée reçue que les personnes en situation de pauvreté ne savent pas gérer leur budget. En fait, ce n'est pas vrai. En fait, c'est la faiblesse des revenus par rapport aux dépenses, et des dépenses qui sont souvent obligatoires et incompressibles.
4450 personnes étaient accompagnées par l'association en Mayenne en 2019 avec un profil spécifique, précise Jimmy Clément Decure, c'est le délégué départemental du Secours catholique.
Alors nous, on reçoit, c'est vrai, beaucoup de gens de plus de 50 ans, parce qu'au niveau Pays de la Loire, on est à 28,3%, lorsqu'on est à 44,7% en Mayenne.
Les femmes seules en Mayenne 2019, 28,6%, Pays de la Loire, 18%. Donc on a une spécificité de femmes seules ou de familles monoparentales qui viennent chez nous.
Difficile de donner une explication à ces particularités, mais une chose est sûre, à cause de la Covid, ils vont être rejoints par certaines catégories de population que le Secours catholique ne voyait jamais auparavant.
On a environ 20% en plus de personnes qui viennent nous voir, en tout cas moi ce que j'ai constaté en Mayenne. Et de notre part, on a aussi un autre public qu'on ne voyait pas avant. notamment des gens qui sont fragilisés par rapport à la crise économique, par rapport au marché de l'emploi, par rapport au chômage partiel qui est financé à 84%, par rapport du coup au licenciement qu'on peut parfois voir aujourd'hui dans les médias, par rapport aussi au monde de la restauration. Beaucoup de gens travaillaient en tant que saisonniers. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés. On a aussi les étudiants qui travaillaient durant l'été. Ce sont aussi des publics qu'il faut qu'on soit, nous en tout cas, attentifs.
Pour remédier à ces situations, l'association milite pour un revenu minimum garanti de 893 euros pour tous et veut miser sur la rénovation des logements dits passoires thermiques. Vous les voyez au centre de dépistage dans leur uniforme orange, la protection civile est très active en ces temps de Covid et ils ont besoin de nouveaux bénévoles. Explication d'ici quelques minutes après avoir écouté Polaroid de Kabadzi.
Que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Et moi ce jour-là, je serai là avec mon Polaroid. Et hop, dans la boîte, ça se passe entre deux gares. On se quitte au bout d'une heure, c'est absolument sans risque. Alors à combien vous l'évaluez votre chagrin? L'impression de ressembler à un lavabo qui se vide. L'impression de jouer des petits rôles, des rôles de mecs qui subissent. Jamais l'histoire bascule, jamais, pour l'instant. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne. Parce qu'il y a des moments c'est beau, vous verrez, c'est pas toujours la merde. Des fois c'est beau, la vie est mal foutue, je vous l'accorde. Je sais pas si c'est de l'or, je sais pas si c'est du diamant, je suis pas géologue. Mais enfin de temps en temps, à force de patauger dans le caca, on découvre une pépite. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on foute pas notre vie en l'air et qu'on nous fasse des petits sourires. Faut pas avoir peur, on a tous peur, j'ai peur. Mais est-ce que c'est une raison pour mourir? Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Peut-être pas demain, mais un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour. Parce que votre sourire, faudra bien qu'il revienne un jour. Faudra bien qu'il revienne un jour.
Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. La protection civile en Mayenne a de nombreuses missions, vous le savez peut-être ou pas, c'est elle qui gère les centres de dépistage de la Covid, elle s'occupe du portage de repas aux personnes âgées ou encore régule le flux des patients à l'hôpital de Laval. Mais pour être sûr de mener à bien toutes ces actions, l'association veut réactiver sa réserve de bénévoles, comme l'explique Rémi Besson, c'est le président de la protection civile de la Mayenne. Comme je le disais, l'association Protection Civile en manque de bras, c'est un phénomène qui est assez récurrent ou c'est particulièrement là en ce moment un peu en urgence?
Alors non, c'est pas qu'on est en manque de bras à proprement parler, on a bien évidemment des effectifs qui sont disponibles et on souhaite, comme au début de la crise, réouvrir cette réserve. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous avaient sollicité, certaines avaient été effectivement mis de côté au départ parce qu'on avait déjà beaucoup d'effectifs à gérer. On a un confinement qui est d'une nouvelle configuration et d'autres personnes avec d'autres disponibilités. Donc effectivement, on est dans l'anticipation de mission. Donc on réouvre en fait ce recrutement de réservistes pour pouvoir combler encore plus nos moyens.
Parce que là, vous sentez que vous allez avoir besoin sur quelle mission en particulier ?
Alors, c'est pas forcément qu'on sent qu'on va avoir besoin, c'est juste que l'on est dans l'anticipation. Effectivement, on a de plus en plus de situations, hein, de gens qui sont contaminés. Alors, on va toucher du bois, mais effectivement, dans nos effectifs, pour le moment, on se maintient pas trop mal. Mais on sait que les gens ont de plus en plus de risques d'être cas contact, d'être positifs eux-mêmes, et donc peuvent mettre à mal très rapidement des équipes. Surtout qu'ils travaillent souvent au minimum en binôme. Donc du coup, on est dans l'anticipation pour pouvoir ne pas, à la dernière minute, devoir chercher des bénévoles.
Parce que là, actuellement, donc sans parler de cet apport de bénévoles, il y a combien de personnes, ça représente combien de personnes la protection civile en Mayenne ?
Alors la protection civile en Mayenne, actuellement, on est environ 150. Sur nos engagements quotidiens là, tout au long de la semaine, on est environ 25 personnes sur le terrain tous les jours, hors équipe de direction du coup qui gère toutes les missions. Donc effectivement, c'est quand même un vivier assez important journalier. Donc on doit, pour pouvoir faire reposer nos effectifs et pour pouvoir contrer toute problématique, augmenter nos moyens.
Et donc sur quelle mission ces futurs bénévoles pourraient intervenir ?
Alors on a plusieurs missions, on a des missions qui vont du portage de courses au portage de médicaments, on a des missions d'appel téléphonique de solidarité en fait envers des personnes qui sont isolées à domicile. On a effectivement également des missions de surveillance de personnes à l'isolement et de portage de repas. On a des missions de filtrage au centre hospitalier de Laval, dans les EHPAD, etc. Donc voilà, on a diverses et variées missions sur le département.
Mais auxquelles on peut participer même si on n'a jamais fait ça, par exemple ?
Alors oui, effectivement, ça dépend des missions, mais il y a des missions où on n'a pas besoin de compétences particulières, mis à part effectivement déjà une envie de venir aider. Ensuite, les nouvelles recrues sont jamais lâchées toutes seules, hein, bien évidemment, elles sont accompagnées, elles sont formées selon les dispositifs sur lesquels elles participent, elles ont les formations nécessaires. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que quand un bénévole rentre, il y a aussi tout un cursus de formation qu'il faut qu'on intègre. Et ces formations prennent du temps, donc c'est pour ça qu'on ouvre effectivement ces recrutements dès maintenant.
Et on sait que c'est aussi donc la protection civile qui gère les centres de dépistage. Comment ça se passe actuellement ? Est-ce qu'il y a plus de Mayennais qui viennent se faire tester ?
Alors plus de Mayennais, bien évidemment, hein, on suit les centres de dépistage suivent bien évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Donc on a plus de personnes qui viennent se faire tester, étant donné qu'on a bien évidemment plus de cas et qu'on a bien évidemment plus de cas contact. Donc on a plus de Mayennais qui viennent se faire tester. Après, la situation reste quand même plutôt bien et on a des nouveaux dispositifs qui arrivent sur le département. Donc voilà, la situation est stabilisée par rapport au dépistage.
Quand vous parlez de nouveaux dispositifs, vous pensez à quoi ?
Alors on le voit, hein, y a des nouveaux dépistages qui sont en train de sortir sur divers secteurs. Donc tous ces dépistages qui vont être déployés, hein, et qui sont déjà déployés dans certaines structures vont permettre aussi de diminuer les fréquentations des centres de dépistage, en tout cas pour fluidifier aussi la capacité de nos centres.
Donc c'est là, vous pensez aux tests antigéniques, ce genre de choses ?
Ouais, par exemple, oui, qui sont déployés, hein, déjà sur certaines structures, etc. Donc ça évite effectivement d'avoir des tests PCR forcément à faire à chaque fois, sauf dans certaines situations. Mais pour l'instant, la situation est quand même assez stabilisée, même si effectivement, on le sait, les files d'attente sont présentes sur les sites de dépistage. La situation se fait. Les personnes effectivement ne peuvent pas se faire dépister le jour même quand elles participent aux files d'attente. Voilà. Après, j'invite les gens à vraiment respecter les consignes qui sont données avec les cas prioritaires, hein, les personnes symptomatiques, les personnes soignantes et les personnes cas contact. À partir du 7e jour après le dernier contact, ça c'est important parce que c'est ça qui nous permet de prioriser et de gérer au mieux nos flux dans les files d'attente.
Oui, ces personnes-là puissent passer en priorité. Et donc, ça veut dire forcément peut-être aussi en laisser d'autres sur le carreau, entre guillemets ?
Alors, sur le carreau, c'est pas forcément laisser sur le carreau. C'est que effectivement, on a un ordre de priorité à donner. On est comme les autres. Hein. C'est-à-dire que nous, on va se fier à ce que la personne nous dit. Si elle nous dit qu'elle est symptomatique, etc., on le fait. Donc, du coup, elle va participer à une file d'attente. Et cette file d'attente, effectivement, est très, très grande souvent. Les personnes qui arriveront après ne pourront pas se faire dépister. Donc, il faut vraiment qu'on respecte ces ordres de priorité et non pas faire un dépistage parce qu'on a l'habitude de le faire tous les 2 mois, si on n'a pas de symptômes, si on n'a pas été contact, si on respecte bien les mesures barrières. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est même qu'une seule personne toutes les 10 minutes qui viendrait sur les centres non prioritaires, forcément derrière entraîne des refus de personnes qui font partie des gens prioritaires. J'invite aussi à utiliser tous les autres services de laboratoire qui existent, le centre hospitalier de Laval, les laboratoires privés sur lesquels on peut prendre rendez-vous. Faut pas hésiter non plus à prendre rendez-vous. Je sais que c'est plus pratique d'avoir du sur-rendez-vous quand on a l'annonce tout de suite qu'on est cas contact. Mais quand on est cas contact et qu'on a un rendez-vous à prendre dans les 7 jours, vous pouvez déjà prendre rendez-vous sur les plateformes, ce qui vous permet effectivement d'être sûr d'avoir votre rendez-vous et de ne pas attendre dans des files d'attente qui sont parfois longues.
J'ai cru lire aussi que, pour le coup, pour le dépistage mobile, il y avait une modification des conditions dans lesquelles ces dépistages seraient faits.
Oui, alors effectivement, les conditions vont changer via 2 problématiques, effectivement. La première problématique, c'est effectivement les mesures climatiques. Hein. On commence à avoir des températures qui sont assez basses, des températures, des météos plutôt pluvieuses. Et ensuite, on a bien évidemment le dispositif Urgence Attentat qui a été mis en place. Donc du coup, on a revu les dispositifs, c'est-à-dire que les files d'attente seront gérées dans des salles. J'ai vu des articles effectivement qui parlaient de centres fixes, c'est pas des centres fixes à proprement parler. Les files d'attente seront à l'intérieur des salles pour être protégées des intempéries. Et ensuite, effectivement, les mesures barrières seront bien évidemment respectées, mais à l'intérieur de ces salles pour protéger les personnes qui attendent. Mais c'est la seule différence en soi dans le fonctionnement. Le fonctionnement restera le même.
Et c'est vrai que vous êtes peut-être maintenant plus rodé qu'il y a quelques mois. Est-ce que là, ce dispositif, vous pensez que globalement, il fonctionne bien et mis à part le fait qu'il y a beaucoup de monde à se faire tester, ça roule quoi?
Alors ce dispositif, effectivement, on commence à bien le connaître. On l'a amélioré depuis maintenant quelques mois. Le dispositif, il roule en soi. Hein, nos effectifs mettent environ 3 minutes à partir du moment où vous passez à l'endroit des mesures barrières. Ce qu'on appelle les mesures barrières, c'est le changement de masque et puis le gel hydroalcoolique. À partir du moment où vous passez cette tranche-là et que vous êtes dépisté, vous en avez pour 3 minutes généralement. Alors des fois, ça peut être un peu plus long en fonction des personnes qui sont dépistées, parce que faut savoir aussi que bon, effectivement, il faut que nos équipes soient rapides, mais il faut aussi rassurer les gens. Il ne faut pas qu'on soit brusque, il ne faut pas qu'on soit voilà, on fait quand même un acte qui n'est pas non plus anodin, donc on a aussi toutes ces choses-là. Il y a des gens un peu plus stressés que d'autres, mais le temps d'attente, entre guillemets, au vu des tests réalisés par jour, n'est pas catastrophique, même si c'est compliqué quand on est le dernier d'une file d'attente. Pour l'instant, la capacité de dépistage est suffisante. On n'a pas énormément de gens, effectivement, qui sont refusés tous les jours. Donc la capacité de dépistage qu'on a mis en place, en tout cas, en 100 rendez-vous, pour nous, est plutôt bien, oui.
Il n'y a aucun site qui est particulièrement en tension où il y aurait beaucoup plus de monde que les capacités proposées?
Alors beaucoup plus de monde, bien évidemment, on a des sites où on a plus de monde que d'autres. Hein. Je pense notamment aux sites qui sont sur Laval. C'est d'ailleurs pour ça que c'est les sites qui reviennent le plus souvent, parce que les gens, même de l'agglomération, viennent forcément sur Laval à un moment, soit pour travailler, faire leurs courses, etc. D'autant plus maintenant. Les sites sont un peu plus remplis que d'autres qui seraient en agglomération, mais en soi, non, les sites fonctionnent plutôt bien, ils sont adaptés, et les équipes sur le terrain, je le sais, adaptent bien chaque fois les situations pour pouvoir accélérer au maximum le passage des personnes.
Et donc c'est vrai que plus globalement sur la protection civile en général, là quasiment toutes vos actions sont liées à l'évolution de la pandémie. Vous êtes passé en 100% Covid à peu près?
Effectivement, on est passé en 90% Covid parce qu'on a quand même des dossiers à traiter pour l'année prochaine, notamment avec les dispositifs prévisionnels de secours qu'on est quand même en train d'organiser avec nos partenaires organisateurs. On a aussi nos formations de nos équipes. On est en train de former énormément de secouristes et d'équipiers secouristes pour pouvoir renforcer aussi des effectifs, parce que c'est des formations de 35 heures. Et on a également toute la partie organisationnelle de l'association qu'on doit pas laisser tomber, bien évidemment. Et puis une des parties les plus importantes et sur laquelle on a forcément le plus de difficultés, ça reste bien l'administratif, étant donné qu'on n'a pas de salariés administratifs au sein de la protection civile, et on a énormément d'administratifs au vu des dispositifs mis en place. Donc on est à 81% Covid, 90% Covid. Sachant qu'on rajoute aussi quelques missions pour aller renforcer nos collègues, notamment là on part avec une équipe là ce soir, on va renforcer le SAMU d'un département d'Île-de-France via la protection civile, où on va aller du coup faire une garde pour le service d'aide médicale d'urgence là-bas. Donc voilà, nos effectifs bougent aussi, ils ne restent pas que sur le département et sont à 90% Covid.
Donc oui, il y a aussi cette aide, je ne savais pas, entre plusieurs départements en fonction des besoins.
Oui, tout à fait. Alors nous, on a été aidés hein, pendant notamment les centres de dépistage cet été. On a eu pas mal de renforts qui sont venus nous aider de d'autres départements. Là, on a un département qui nous a sollicité pour venir les aider sur une garde SAMU qui mettent en place tous les jours. Donc du coup, on va aller les renforcer avec notre ambulance et puis nos effectifs. Donc on a un équipage complet qui va aller faire 24 heures de garde là samedi sur la région parisienne. Donc voilà.
C'est vrai que oui, il en faut, comme vous disiez, des bénévoles pour assurer toutes ces missions. Si justement on est intéressé pour vous rejoindre et participer d'une manière ou d'une autre, comment on peut vous joindre ?
Alors pour nous joindre, ben, on peut nous joindre effectivement. Alors soit il y a les réseaux sociaux, hein, Facebook, ça marche très très bien. Il y a les messages, hein, où on répond assez régulièrement. On a la cellule com qui travaille pas mal dessus, donc... Je les en remercie d'ailleurs, ils ont des réponses assez rapides, les gens. On a la boîte mail, hein, mayenne@protection-du6civil.org. Et puis après, effectivement, vous pouvez retrouver aussi les informations via le site fédéral protection-civil.org. On parle beaucoup d'engagement des bénévoles, mais il faut parler aussi de l'engagement de leur famille, parce que un bénévole qui s'engage à la protection civile et qui donne énormément de temps, mais un petit peu aussi de côté sa vie de famille. Et je pense souvent aux familles justement de nos bénévoles qui sont un petit peu délaissés ces derniers temps, avec toujours ce risque effectivement d'être contaminé aussi, parce que on le pense très peu souvent, mais c'est pas parce qu'on a un uniforme qu'on est complètement immunisé face au Covid. Donc on a pas mal de bénévoles, hein, sur certaines missions qui prennent quand même quelques risques, même s'ils sont protégés, qui mettent en péril un petit peu leur vie de famille aussi. Donc voilà, c'est un engagement à grande échelle, c'est pas juste donner de son temps.
On n'en doute pas que c'est vraiment un engagement à part entière. Merci beaucoup Rémi Besson d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Et puis voilà, donc on peut vous contacter si on veut aider en tout cas la protection civile en Mayenne. Et puis on rappelle, aujourd'hui le site de dépistage mobile est à Laval, à la salle multisport du Palindrome rue Albert, aujourd'hui, donc en ce moment-là jusqu'à 13h30 et cet après-midi de 16h à 19h30. Et ce lundi, c'est le retour de notre chronique éco et sociaux qui prend des airs de science politique aujourd'hui, puisqu'on va parler de la gestion des émotions par les hommes politiques et de la situation sanitaire, puisque vous allez l'entendre, les deux sont liés. Bonjour Soizic, alors aujourd'hui vous vous demandez de quoi la colère d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale est-elle le nom ?
Et oui Marie, on a beaucoup glosé sur cet emportement et il m'a paru intéressant d'y revenir en dehors de toute polémique, simplement dans une optique d'analyse dans sciences politiques. Je rappelle le contexte. Mardi dernier, à l'issue du vote de l'Assemblée nationale en faveur d'un état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 14 décembre et non jusqu'au mois de février comme l'avait prévu le gouvernement, Olivier Véran s'est emporté alors qu'il revenait d'un déplacement dans le service de réanimation du centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Très en colère, il s'emporte et hurle, je cite, « Dans la première chambre, il y avait un homme de 28 ans dans le coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme de 35 ans en surpoids. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. »
Et alors, que penser de cet emportement ?
Alors, on retiendra évidemment à la décharge d'Olivier Véran l'accumulation de stress depuis qu'il est ministre de la Santé dans un contexte de pandémie, c'est certain. À cela se conjugue également l'émotion que ressentirait n'importe qui après la visite d'un centre de réanimation dans ce même contexte. Mais Marie, c'est justement là que le bât blesse. Je veux parler de l'émotion. En effet, ce que l'on peut légitimement reprocher à Olivier Véran, comme à tous les politiques d'ailleurs, qui font preuve d'un défaut de self-control, c'est justement de faire passer au premier plan de leurs émotions, relayant par conséquent au second plan la raison. Si gouverner c'est prévoir, gouverner c'est également conduire la nation avec des arguments rationnels et objectifs, loin des croyances, des préjugés et des raisonnements simplistes. Parce que le problème, c'est que le discours apocalyptique et anxiogène d'Olivier Véran ne reflète pas la réalité qu'il prétend décrire. J'en veux pour preuve les analyses de Laurent Toubiana, chercheur en épidémiologie à l'INSERM depuis près de 30 ans et qui remet pour le moins les pendules à l'heure dans un article vraiment passionnant de Mediapart. Le chercheur rappelle que sur 15 millions de tests effectués fin octobre, 93% sont négatifs. Et parmi les 7 positifs, plus de 85% ont moins de 60 ans. C'est-à-dire que ce sont quasiment toutes des personnes qui ne sont pas à risque de faire une forme grave de la maladie. Il faut le redire. Le chercheur poursuit. En septembre-octobre, 7,5 millions de tests ont été réalisés. 0,5% des personnes testées ont été hospitalisées et seulement 0,09% d'entre elles ont été admises en réanimation. En d'autres termes, la probabilité moyenne pour chaque individu lambda de ne pas être hospitalisé est de 99,5% et celle de ne pas être admis en réanimation de 99,91%. Par ailleurs, la sociographie des patients, édité la semaine dernière par l'INSERM, montre que le profil type des malades en réanimation n'est pas de 35 ans, comme semblait le dire le ministre de la Santé. L'âge médian des décès de la COVID-19 à l'hôpital en réanimation est en effet de 80 ans. Autrement dit, 50% des personnes en réanimation plus de 80 ans et 50% moins de 80 ans. Et ce sont particulièrement des hommes à 74%, lié à un problème de comorbidité, dont l'obésité.
Et entendez-vous par là que la situation est moins grave parce que la pandémie s'attaque surtout aux personnes âgées ou vulnérables ?
Mais évidemment non, pas du tout, bien sûr. Mais cela signifie en revanche, et il faut rester concret, il faut rester pragmatique, ça signifie que les mesures qui sont mises en place, évidemment, ne seront pas les mêmes selon les personnes atteintes. Si effectivement l'âge le plus fréquent des personnes décédées de 35 ans, comme semblait le dire un petit peu Olivier Véran sous le coup de l'émotion, on comprend bien qu'il faudrait repenser le non-confinement des personnes qui travaillent, par exemple. De même, si cette pandémie touchait les plus jeunes, il est évident qu'il aurait fallu fermer les écoles, les collèges et les lycées, et ça depuis longtemps. Par conséquent, ce ne serait pas tant dans la létalité de l'épidémie qui pose problème, que la dégradation du système de santé désormais incapable d'affronter pareille situation. Le problème de nos élus en colère n'est donc pas tant de faire un coup de gueule que d'envoyer un piètre signal de gouvernance. On le sait, la colère est mauvaise conseillère et la panique n'a pas sa place dans un gouvernement. Pour terminer, je citerai Oscar Wilde qui disait que l'émotion emprisonne la pensée dans un cercle. Notre gouvernant ne devrait-il pas de temps en temps se mettre en mode pause et prendre le temps de relire Oscar Wilde ?
À méditer. Merci Soisy, qu'on s'excuse pour les petites coupures que vous avez peut-être entendues. Ce sont les aléas techniques de la visio. Mais en tout cas, cette chronique est à réécouter sur notre site internet, comme toutes les autres d'ailleurs.
30 minutes tous les jours.
Oui, tous les jours, c'est 30 ça, minutes.
Du lundi au vendredi sur l'autre radio.
Depuis le reconfinement il y a 15 jours, les commerces dits non essentiels sont fermés. C'est le cas de la majorité des commerces du centre-ville de Château-Gontier. Comment s'en sortent-ils ? Utilisent-ils le système de click and collect tant mis en avant un peu partout ? Sont-ils en danger financièrement ? Autant de questions que nous avons posées pour commencer à Stéphanie Fougère. Elle est fleuriste au Jardin du Faubourg depuis le mois de février.
Là, le deuxième confinement, il n'y passe pas très bien, en fait. Le premier, bah voilà, on prend le du recul, on se réinvente, et voilà, même si ça faisait pas longtemps que j'étais là, mais il y a toujours des choses à améliorer. Là, c'est plus compliqué. Donc, faut que la pilule elle passe. Et puis maintenant, voilà, on va faire en sorte que avancer sur Noël, parce qu'on espère ouvrir pour Noël, au 1er décembre, on espère. Et du coup, ça, si ça pouvait sauver le mois de décembre, ce serait top. Donc là, on commence à faire les premiers achats de Noël et on va commencer les vitrines pour donner envie aux gens, donc à l'intérieur du magasin et à l'extérieur. Donc on travaille sous forme de drive. Donc les gens passent commande et viennent chercher leur commande ou la livraison. Et puis, il y a deux sites sur lesquels je suis. Il y a mavillemonshopping.fr. Et là, il y a un panel de produits que je propose. Et ensuite, il y a, qui est en train de se mettre en route, mais qui fonctionne, c'est Byflox, spécial fleuriste. Et du coup, quand on va sur ce site, on choisit le fleuriste de la ville, en fait, la plus proche. Et du coup, après, c'est pareil, c'est nos produits qui sont proposés. Et donc, en fait, le client choisit son produit et c'est ça qu'il va avoir quand il va venir chercher son produit. Et alors, les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent venir en drive et qu'on est ouvert, mais de façon différente. C'est encore compliqué parce que pour les courses, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les achats autres, c'est plus compliqué. Mais ça commence à rentrer et moi, je trouve que je travaille plus qu'au premier confinement. Premier confinement, nos fournisseurs ont fermé. Donc forcément, les gens jouent le jeu, en fait, pour les anniversaires. Donc ça, c'est le plus fun. Par contre, il y a le deuil. Forcément, ça fait partie du métier, mais bon, ça nous fait travailler. Et puis, il y en a qui prennent des fleurs pour la maison. Donc ça, c'est top parce que je trouve qu'on peut se faire plaisir avec des petits budgets. Voilà, on s'adapte. D'où l'avantage d'avoir des sites, en fait, parce que des sites internet qui se disent, bon, bah voilà, elle fait ce genre de produit. Et après, effectivement, on peut m'appeler et c'est plus facile d'expliquer. Alors, effectivement, après, par texto interposé, on peut envoyer des photos, etc., des produits. Et après, bah, il y a une partie où il faut faire confiance aussi aux fleuristes. Après, on peut donner les thèmes, enfin les couleurs, les formes, voilà. Et puis après, on s'adapte. On joue le jeu, on est des commerces de proximité, il faut qu'on soit là pour eux. Donc après, voilà, on s'adapte. En plus, moi, je peux bouger. On peut faire des livraisons. Donc si les personnes ne peuvent pas se déplacer, on livre, surtout pour les anniversaires, où les gens ne peuvent vraiment pas aller voir les gens. Puis ça leur fait une surprise, voilà. Et moi, je ne prends pas de frais de livraison parce que là, on est comme le premier confinement, parce que c'est rendre un service aux clients, voilà, parce qu'on est bloqué et que voilà, et on s'adapte. Alors, je sais qu'il y a la maladie, hein, faut pas rêver, j'en prends conscience et tout ça. Mais économiquement parlant, voilà. Enfin, si on n'arrive pas à faire Noël, je pense que ça va être très compliqué. Donc, même si moi, j'ai une trésorerie saine parce que je viens de débuter et que on maîtrise les achats et voilà. Mais il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas. Les charges fixes, voilà, faut qu'on les paye. Et même si on va essayer de négocier les loyers, c'est juste le loyer. Après, le reste, il faut payer. Enfin, je pense qu'il faut garder le sourire.
Un optimisme perceptible aussi à la boutique des créateurs qui mise également sur une réouverture le 1er décembre. Vous l'entendrez demain. Et puis c'est l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives du jour, présentées par Claire. Et on parle aujourd'hui entre autres de la chaîne alimentaire solidaire, unique en France, Claire.
Et oui, face à la crise sanitaire, les associations d'aide alimentaire sont très durement touchées. Il est difficile de collecter les denrées car les restaurants et producteurs sont pour la plupart fermés. Les stocks sont en baisse et s'ajoute à cela l'arrivée de l'hiver. Dans ce contexte, la région relance la chaîne alimentaire solidaire. La région Pays de la Loire achète les denrées aux producteurs locaux en lien avec Solal, Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Elles sont ensuite mises à disposition des quatre principales associations, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire et les Restaurants du Cœur, pour qu'elles soient redistribuées ensuite aux plus démunis.
Et puis le pays de Château-Gontier sur Mayenne se mobilise pour ses commerçants face à Amazon.
Pour les fêtes de fin d'année, les élus incitent les consommateurs à acheter local plutôt que de commander sur la plateforme Amazon. La campagne de soutien baptisée « Ayons le déclic » est accompagnée d'une photo de zone de retrait de colis Amazon avec comme texte « Ceci est une vitrine de Noël, vous trouvez ça triste, nous aussi ». Cette campagne incite à acheter local, mais par internet aussi via le « Click and Collect ». Le communiqué sur les réseaux sociaux du pays de Château-Gontier termine par « Les grands distributeurs de colis ne remplaceront jamais l'expertise de nos professionnels ».
Et puis une bonne nouvelle, même confiné, on peut toujours prendre l'apéro.
Et oui, évidemment, un bon plan pour vendredi soir, Marie, grâce à Mathilde et Clémence. L'une est la gérante du bar La Nef à Laval et l'autre restauratrice pour le salon de thé La Maison. Elles s'associent pour vendre des cocktails à emporter et confectionner des tapas. Pour Mathilde, les cocktails sont servis dans des bouteilles consignées en verre que vous pouvez retirer vos commandes du jeudi au samedi. Et pour Clémence, elle s'occupe des tapas en plus de ses plats à emporter à retirer du lundi au vendredi. Vous pouvez les contacter au 09 81 78 50 00.
Et l'association Les Possibles organise une collecte solidaire.
Dès la semaine prochaine, devenez messager de bonnes ondes et postez des dessins, messages, poèmes, cartes postales que le collectif Les Possibles se chargera de distribuer aux personnes vivant seules. L'idée est de maintenir du lien, de transmettre une idée positive sous la forme que vous le souhaitez. En apposant votre prénom et votre âge en bas de l'ouvrage, vous pouvez vous renseigner sur les lieux de collecte. Contactez-le 02 43 04 22 93.
Une belle initiative qu'on relaie aussi, donc si vous voulez laisser un message à destination du collectif ou même de la radio ici, un petit message, quelque chose à nous faire passer, n'hésitez pas à contacter notre répondeur Barbara au 09 70 40 59 40. Allez, je le répète histoire que vous le notiez bien, 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission de la JT du local pour ce lundi, merci Claire.
Merci Marie, à demain.
À demain, puis bon après-midi. À suivre à 19h, Solénoïde. À 20h, vous pourrez découvrir la discothèque de Fabrice. Et à 21h, Rock My Soul sera diffusée la dernière émission du 29 octobre. Prochaine quotidienne, donc demain, toujours à la même heure, à 12h15. Bonne fin de journée et à bientôt.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.